France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au livre, etc. Aujourd'hui, trois textes puissants qui plongent au cœur des traumatismes et interrogent la manière dont la littérature et l'art en général s'opposent à l'effacement et au chaos.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au livre, etc. Lilia Hassen.
Nous retrouverons d'abord Rachid Benzine pour L'homme qui lisait des livres, publié chez Julliard. L'histoire d'une rencontre entre un photographe français, Julien Desmanges, et Nabil Al-Jaber, un vieux libraire de Gaza. C'est un roman en forme d'ode à la lecture et à la littérature, puisque ce libraire, Nabil, utilise les mots de Mahmoud Darwish, André Malraux ou encore de Shakespeare comme rempart à la souffrance et à la dévastation de sa ville. J'aurai le plaisir de recevoir aussi Kauter Adimi avec La joie ennemie aux éditions Stock, un récit présenté comme une contre-archive dans laquelle l'autrice raconte son enfance en Algérie pendant la décennie noire des années 90. En s'appuyant sur l'œuvre lumineuse de la peintre Baya, elle combat le silence familial et tente, je cite, de donner corps aux fragments et aux débris de la mémoire. Et enfin, après La joie ennemie de Kauter Adimi, nous recevrons Julien Delmer avec La joie de l'ennemi. Les titres se ressemblent, mais attention, ils ne veulent pas dire la même chose. Dans ce cinquième roman de Julien Delmer, publié chez Grasset, il est question de violence, ou plutôt de comment la souffrance intime peut se transformer en violence contre soi-même et contre les autres. À travers l'histoire de Jeffrey Edrinsken, un homme au passé douloureux, Julien Delmer nous parle de rédemption et de la possibilité de renaître après l'enfer. Trois textes, une même quête. Comment transformer l'horreur en des récits qui permettent de rester vivant? Nous en parlerons avec nos invités et avec nos libraires francophones présents comme chaque semaine tout au long de l'émission. Vous écoutez Au livre, etc. C'est parti.
Au livre, etc.
Kauter Adimi, Rachid Benzine, Julien Delmer, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous avez un point commun, vous faites de la culture, qu'il s'agisse de la littérature, de la musique ou de la peinture, une nécessité vitale face à la violence. Question pour tous les trois, à quoi sert la culture, Rachid Benzine?
La culture cherche à faire en sorte que la déshumanisation n'est pas le dernier mot, que la mort n'est pas le dernier mot. C'est à la fois un refuge et aussi un lieu d'imagination pour à la fois trouver les mots pour continuer à résister. Souvent, on est souvent sauvé grâce aux mots des autres.
Kauter Adimi, même question. À quoi sert la culture?
Elle permet de faire grandir son âme, elle permet de s'élever, elle permet aussi d'apprendre beaucoup sur soi, de découvrir les autres à travers un prisme différent que la rencontre. Moi, la culture, elle m'a permis de m'extraire au réel à un moment où j'en avais besoin. Puis elle m'a aussi, elle m'a fait grandir beaucoup, la culture. Et parfois un peu plus que les personnes que j'ai pu rencontrer autour de moi. Elle a eu plus, en tout cas, d'effet sur ma personnalité et sur ma façon de voir le monde que bien des personnes que j'ai pu rencontrer.
Julien Delmer, et vous?
Moi, j'ai tendance de plus en plus à voir la culture comme quelque chose qui va au-delà des arts. C'est pour moi vraiment quelque chose qui a aussi trait aux liens qui sont tissés entre les gens. Il y a la belle phrase de Césaire qui disait « La culture, c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre la vie supportable et la mort acceptable ». Et je trouve que c'est vraiment cette définition-là, très large de la culture, que je trouve la plus porteuse.
Et quand on voit le nombre de musiciens qui se sont suicidés, est-ce que vraiment ça rend la vie plus supportable? Pas que les musiciens d'ailleurs, les artistes, les poètes.
Ça, c'est une question un peu choc. En tout cas, bon, moi, le musicien dont je m'inspire pour mon roman, effectivement, a eu une vie dure et est mort très jeune. Ceci dit, je pense que le court espace qu'a duré son existence a trouvé un sens avec l'art et la culture, oui.
Rachid Benzine, votre roman entier est un hommage au livre. Le libraire de Gaza, Nabil Al-Jaber, dit qu'un grand livre, c'est un monde, un refuge et un miroir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les trois?
Un roman, en tout cas un grand roman, propose d'abord un univers, un monde à habiter, et que les textes sont toujours des lieux où on peut habiter un espace, un temps, un lieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, la question du refuge, elle permet de s'extraire du réel, lorsque parfois la violence du réel finit par vous, je dirais, définir comme un résidu, comme une chose, ce qui est le processus même de la déshumanisation. La littérature, le moyen, par les mots, elle permet de donner de la chair. Là où, par exemple, on va parler de Palestiniens ou de terroristes ou simplement de victimes, elle permet d'abord de singulariser, d'entrer par le singulier. Et le troisième élément, c'est aussi la capacité à ouvrir un espace en termes d'imagination pour dire que le monde ne s'arrête pas uniquement à ce que nous voyons. Et en ce cela, la littérature, ou en tout cas les grands textes, sont des lieux de subversion et, je dirais, les grands textes sont des textes qui sont des puits sans fond, on n'a jamais fini d'en saisir le sens, ils viennent créer une fissure dans le réel et les grands textes sont toujours enceintes de nouveaux sens.
Pour vous, Kauter Hadimi, la littérature a été plutôt un refuge, un miroir, un monde ?
Plein de choses différentes au fil des années. Elle a été un refuge enfant, mais c'est un peu ce que je raconte dans ce livre-là. Le réel étant, ayant été très très sombre, très dur, je me suis beaucoup réfugiée dans la littérature, ce qui me permettait de m'évader et de quitter au moins le temps de quelques heures ma vie, que je trouvais affreuse et que je trouvais extrêmement sombre. Et la littérature a été à ce moment-là un refuge. Elle m'a permis aussi de croire qu'il était possible d'avoir autre chose, d'espérer autre chose, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, ou en tout cas de plus intéressant que ce que je pouvais vivre à ce moment-là.
Cette question du refuge, elle m'intéresse parce que elle est très ambivalente, en tout cas en Algérie, parce que la culture, c'est à la fois effectivement ce qui peut sauver, et en même temps, c'était vraiment aussi le lieu dans lequel on pouvait être menacé. Vous écrivez que pendant la décennie noire, aller au cinéma, assister à un concert, entrer dans une librairie, c'était prendre le risque de ne pas en ressortir vivant.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que l'un de mes livres démarre par une histoire tragique, puisque quand j'écris Nos richesses sur Edmond Charlot, le projet initial était plutôt de raconter Vincent Gros, qui est un libraire algérois né à Alger, qui est resté après l'indépendance de l'Algérie, donc français, et qui avait refusé de partir dans les années 90 et qui a été assassiné sur le pas de la porte de sa librairie. Et j'ai été extrêmement marquée par cette histoire de ce libraire assassiné par les groupes islamiques armés.
C'était rue Didouche Mouad.
Vincent Gros est enterré à Alger. Et donc, ça fait à peu près une quinzaine d'années que cette histoire m'accompagne. Et bien sûr qu'à ce moment-là, moi, mes parents, à ce moment-là, refusent qu'on aille au cinéma, dans des musées, etc. Il n'en est même pas question parce qu'ils considèrent que le risque est trop important de prendre une balle ou d'avoir une bombe qui explose ce jour-là. Mais je faisais la différence entre un lieu de culture et la culture qui est produite. Entre aller dans une librairie, acheter un livre et avoir le livre. Et après, ce qui est paradoxal et ce qui est ambivalent, c'est qu'un refuge, ce n'est pas toujours une bonne chose. Parce que plonger dans un livre, c'est s'extraire du réel et c'est donc devenir, en quelque sorte, un peu un clandestin, quelqu'un qui refuse d'exister dans le réel. Et je pense qu'à un certain moment de ma vie, et ça m'arrive encore aujourd'hui, en faisant cela, en plongeant dans un livre, beaucoup plus d'ailleurs la littérature que tout autre art en ce qui me concerne, le livre m'enferme là où le cinéma ne m'enferme pas forcément, je m'extrais du réel parce qu'il m'est parfois plus facile d'aller plonger dans un livre que de continuer à vivre ma vie.
Vous écrivez « Les attentats frappent partout, ils traquent ceux qui créent, ceux qui rêvent, ceux qui pensent ». Rachid Benzine, vous êtes aussi islamologue. Comment vous entendez ce lien entre fanatisme, peur et disparition de la culture ?
Il s'agit toujours de bien comprendre que ce que nous appelons Dieu, ce que nous appelons religion, ce que nous appelons simplement l'être humain, ne peut se comprendre qu'à partir des médiations. Et que la culture, la langue, les textes religieux, la littérature sont des médiations. Et lorsque l'on cherche dans un pays à avoir simplement une seule médiation, et ensuite l'interprétation de cette médiation par uniquement un certain groupe d'hommes, effectivement le fanatisme naît. Le fanatisme naît lorsque il y a la question de la vérité, notamment la question de la vérité absolue.
Est-ce qu'on supporte même la médiation ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas justement un contact presque direct avec Dieu,
c'est ça,
la parole de Dieu ?
C'est ça qui est très difficile, mais même la parole de Dieu, elle se fait dans un langage humain, dans une culture et dans un texte. Donc Dieu n'y accède pas comme ça, c'est-à-dire qu'on passe toujours par une médiation. Et les médiations, elles sont toujours insuffisantes, elles sont toujours parfois même caricaturales.
Julien Delmer, dans votre livre, l'art, donc la musique surtout, est un moyen d'expression face à la brutalité, une manière de prendre conscience de soi.
Oui, la musique principalement, parce que mon personnage n'a finalement, quand il a coupé les ponts avec le monde extérieur, quand il s'est isolé tout seul dans sa cabane, qu'il a volontairement décidé de tracer un fossé entre lui et tout ce qui pourrait l'affecter à l'extérieur, il n'y a que finalement la musique qui soit encore capable d'agiter sa sensibilité. Et c'est à travers la musique qu'il enclenche ce processus de réminiscence vers ce qu'il pense être une vérité enfouie, en l'occurrence des traumas de choc insulinique qu'il a reçu reçu à l'adolescence lui ont fait perdre la mémoire, et donc c'est à travers la musique qu'il essaie de se reconstituer une mémoire factice, une mémoire partielle, mais une mémoire tout de même qui lui permet d'être acteur de sa vie et non plus spectateur. Donc je pense que la musique a cette force-là, et cette puissance, ce pouvoir de la musique, il est effectivement au cœur du roman, oui.
Il y a un autre point commun dans vos livres. Vous parliez des chocs insuliniques, donc aussi de cette violence institutionnelle. Vos trois romans sont plutôt engagés, voire très engagés. On parlera du lien entre littérature et politique dans un instant, mais d'abord on écoute Yves Nice, Sud de la France.
C'est un tube, si je suis dans le sud, là je suis dans le sud de la France. Absent d'un brique et je suis dans le truc, et désolé si je te l'apprends. J'avais raison, je l'avais prise, c'est pas nous si c'est pas crédible. T'as appris à tes dépens, que la maison ne fait pas crédit. J'suis pas le genre de négro qui perd des love. J'lasse ma paire d'hyper vénom et j'file au goal. Gros banger dans des petits locaux. J'emmène ma team au cost, j'prends un tigre et j'le veux bleu. Comme si j'suis Dinoco. J'comprends R. J'fume la A, j'fume celle d'IR. J'sais pas ce qu'elle me dit elle. Les locks qui puent l'indica, j'suis jet lag, j'reviens de MTL. Le monde est à nous, ma gueule. Pour ça que j'écoute que la famille. On envoie la pure comme ça qu'on t'accueille. J'crache le feu, c'est même pas midi. Plus Diaconé que Chardonnay, personne connaît sous le masque. Si je réponds pas, faut me pardonner, je dois charbonner pour As. Faut les mélos, les bons tracks, pour les zéros, les contrats. S'il faut le faire, je compte sur mes frères, mais pour eux les plier, je les compte pas. Oh. Oh. Si tu veux le blé, on a. YV ballon d'or, pour moi c'est un pléonasme. Personne peut sauter ma place, y'a personne qui peut soulever mon art. Mon avenir dans mes deux mains, elles sont plus grandes que celles de Léonard. Yeah, yeah. Ils font les pélos, moi j'aime pas trop qu'on m'appelle au taf. J'tends dans un télo, car autant d'étoiles que Ronnie avec la pelota. On est venu, c'est pas pour air, traîne pas la chicos. J'mets pas d'eau dans mon vin, mais des glaçons dans le casamigos. C'est un sub, si j'suis dans le sud, là j'suis dans le sud de la France. J'ai besoin d'un brique et j'suis dans le truc, et désolé si j'te la prends. J'avais raison, j'avais prédit, c'est pas nous si c'est pas crédible. T'as appris à tes dépens, que la maison ne fait pas crise. Oh, c'est un tube, si j'suis dans le sud, là j'suis dans le sud de la France. J'ai besoin d'un brique et j'suis dans le truc, et désolé si j'te la prends. J'avais raison, j'avais prédit, c'est pas nous si c'est pas crédible. T'as appris à tes dépens, que la maison ne fait pas crédit, let's go.
Vous écoutez Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Kauter Adimi, Rachid Benzine et Julien Delmer. Rachid Benzine, votre roman s'ouvre avec le personnage de Nabil, le libraire qui refuse d'être photographié. Il lui dit, vous savez, ce n'est pas rien une photographie, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Il serait peut-être plus aimable que nous prenions le temps d'abord de nous rencontrer. J'ai trouvé cette phrase très intéressante, à une époque où on photographie tout le temps, tout le monde, sans demander l'autorisation. Qu'est-ce qui signifie ce refus dans la bouche d'un libraire de Gaza?
C'est le refus de l'image qui ne dit pas grand-chose, c'est le refus de l'immédiateté, de la spontanéité et de la non-demande du consentement. Et derrière ce non-consentement, il y a toutes les violences du monde qui peuvent s'effectuer, en tout cas à travers cette grille-là. Et je voulais opposer la question de ce flot d'images que nous recevons qui finit par nous anesthésier face à la question du récit, qui suppose la durée. Donc moi, je voulais sortir de l'immédiateté du 7 octobre 2023 pour introduire de l'épaisseur historique, introduire du récit et de la durée et de la vie, puisque le temps ne peut s'articuler qu'à travers le récit et que toute vie mérite récit. Et en singularisant, j'avais besoin d'articuler au moins cette histoire depuis 1948 jusqu'à maintenant, un homme qui traverse plus de 70 ans de malheur, d'amour, d'espoir, de désillusion, de prison, de tragédie. Et comment on fait pour tenir face à cela, face à l'horreur, face à cette vie lorsqu'on a tout perdu?
C'est un roman ou c'est l'histoire d'un homme que vous avez rencontré vous-même?
C'est l'histoire d'un roman, mais c'est aussi l'histoire d'hommes que j'ai rencontrés, que j'ai pu rencontrer à travers l'histoire, puisque j'ai aussi des copains à Gaza, en Palestine. L'image qu'on voit dans la couverture, c'est l'image d'un libraire à Gaza, à Rabat, qui existe, qui s'appelle Mohamed Azizi. Donc, et puis se dégage de cette image une sérénité face au bruit, face à la violence du monde, face à ces effondrements. Et je voulais aborder justement la question, à savoir comment on fait pour exister face à la déshumanisation et surtout, qu'est-ce que c'est qu'un homme bon pendant la guerre, quand on a tout perdu face à la question de la haine, face à la question de la violence, face à la question du mépris.
Vous écrivez « La vie banale n'est pas pour les journaux ». C'était ça aussi l'objectif du roman ?
Absolument, puisque le roman cherche à traduire le quotidien, l'ordinaire, ce que l'on ne voit plus, puisqu'on est constamment face au choc du présent, et le choc du présent nous ramène constamment à une espèce de sidération, et cette sidération se traduit d'un point de vue politique face à une impuissance à changer le réel, et cette impuissance à changer le réel traduit de plus en plus soit de la colère et de la violence en soi, soit face à des gens qui finissent par déshumaniser l'autre en projetant leur impuissance sur des gens qui seraient puissants, comme Netanyahou, comme Poutine, comme Trump et autres.
Chaque semaine dans l'émission, nous recevons des libraires francophones. Cette semaine, c'est notre libraire belge Catherine Manger de la librairie Papyrus à Namur qui vous a lu. Catherine Manger, bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois savoir que le roman de Rachid Benzine est l'un de vos préférés de la rentrée littéraire.
Tout à fait, Lilia. Bon, bah, d'abord, merci Rachid Benzine pour ce très beau texte. En fait, votre livre fait partie, pour moi et pour l'équipe de ma librairie, des belles découvertes de cette rentrée littéraire. Il y a énormément de choses qui nous ont plu dans ce livre. Mais je reviendrai sur deux éléments qui m'ont vraiment fort touchée. D'abord, la musicalité des mots. On n'en a pas encore beaucoup parlé dans l'émission, mais à vous lire, on a vraiment envie d'entendre et d'écouter une lecture à voix haute de votre roman, de se laisser bercer par les mots. On sent qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui relève presque de la musique. Mais la deuxième chose qui m'a plu, on en a déjà parlé, c'est l'importance que donne Nabil à la rencontre et à l'amitié. Pour accepter que Julien prenne une photo de lui, il va d'abord vouloir en faire un ami, pour créer cette relation d'amitié, pour devenir intime, il faut rencontrer l'autre, écouter son histoire, savoir d'où il vient, ce qu'il a vécu. Tous les jours, nous jugeons en quelques secondes les gens qu'on croise, en fonction de leur style vestimentaire, de leur activité ou de quelques mots échangés. Mais on ne connaît jamais vraiment un autre tant qu'on n'a pas passé du temps à échanger avec lui. Et ça, je trouve que dans votre récit, c'est ça qu'on comprend. Et je pense que le monde se porterait mieux quand chacun tentera de connaître l'autre et connaître surtout celui qui ne lui ressemble pas.
Vous avez aimé le titre aussi.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, dans votre roman, le titre l'annonce déjà. Les livres ont une place particulière. Les livres n'empêchent pas les bombes d'exploser ou les balles de tuer, mais ils peuvent aider à traverser les épreuves de la vie. Et pour le coup, Nabil a traversé un paquet d'épreuves d'injustice, comme énormément de Palestiniens. Alors une question me vient en tête. Et vous, Rachid Benzine, est-ce que les livres vous ont aidé au cours de votre vie ? Et si oui, lesquels ?
Un grand merci pour cette question. Oui, effectivement, les textes ont été toujours très importants pour moi, parce que d'abord, j'ai un père, très érudit. Il a toujours lu la poésie arabe, les classiques, ou même l'exégèse, et que pour moi, ça a été des rencontres pour ouvrir le monde. Et je suis tombé très vite, notamment dans les textes religieux, que ce soit les évangiles, la Bible ou le Coran. Et j'ai vu que les textes, ils ont une importance fondamentale dans la mesure où les textes ont des impacts sociaux et politiques. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'aspect poétique des textes, c'est qu'ils ont une dimension politique, ils traduisent, ils vous mettent à agir. C'est-à-dire qu'il y a un texte, il y a le lien de ce que Paul Ricoeur appelle, on passe du texte à l'action en passant par l'imagination. Et un des grands textes, en tout cas pour moi, qui a été très important, c'est toute l'œuvre de Stefan Zweig, cette sensibilité, cette manière de décrire l'être humain dans une sensibilité que je n'ai rarement rencontrée.
Rachid Benzine, vous avez écrit sur un libraire de Gaza dans un contexte géopolitique où beaucoup de gens avaient peur aussi d'en parler. Pourquoi avoir voulu raconter cette histoire, vous, maintenant, dans une rentrée littéraire ?
Parce que je crois que c'est notre responsabilité de traverser le monde dans ce qu'il a de plus tragique, de plus violent. Certains ont eu peur, certains n'ont pas eu peut-être ce courage de pouvoir en parler. Or, pour moi, je ne me voyais pas écrire sur autre chose que ça, sinon cela relèverait pratiquement pour moi de la lâcheté. Et c'était important de pouvoir et humaniser les Palestiniens, de raconter des vies, parce qu'il y a une vraie question politique qui est posée, c'est est-ce que toutes les vies sont pleurables ? Et j'ai eu l'impression qu'en France, et parfois dans une certaine contrée d'Europe, certaines vies ne méritaient pas d'être pleurées, certaines vies n'étaient pas considérées comme dignes, certaines vies ne valaient pas qu'on puisse raconter leur existence. Et donc, pour faire face à ce choc-là, je me suis dit, pour moi, c'est important de pouvoir écrire cela. Donc, j'ai écrit une fable, le titre emprunte à Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire.
Voilà, l'homme qui lisait des livres pour essayer de raconter tout simplement une histoire d'un homme qui aime les livres, qui aime Shakespeare, qui aime Job, le livre dans la Bible, qui aime Mahmoud Darwish, et que ces textes-là viennent le rencontrer, comme si finalement, je dirais, quand on a tout perdu, les livres, la littérature deviennent une patrie portative, un espace à habiter. On peut habiter un texte.
Le fameux monde, le refuge. Kauter Adimi, Julien Delmer, est-ce que la littérature est politique ? Julien Delmer, dans votre livre, je le disais tout à l'heure, la violence est institutionnelle. Se pose notamment la question des électrochocs. Est-ce que pour vous, la littérature est politique ?
Oui. En tout cas, la littérature telle qu'elle m'a parlé, qu'elle m'a interpellé quand j'étais adolescent et qu'elle m'a, au point qu'elle m'a semblé suffisamment désirable puisque pour que j'ose à un moment y participer avec, y mettre ma toute petite graine, oui, elle était politique. Moi, ma révélation, la véritable moment où j'ai compris que la littérature était autre chose que de l'ornement, on va dire, c'était avec Césaire, avec le discours sur le colonialisme et le cahier d'un retour au pays natal. Donc, effectivement, mon premier choc réel qui m'a influencé, qui continue à être une boussole aujourd'hui, est une littérature à la fois qui ne lâche rien au niveau de l'exigence esthétique, c'est-à-dire que formellement, Césaire reste un sommet, mais qui effectivement a comme intention de dire le monde, de dénoncer ce qui doit l'être, de d'éclairer les zones d'ombre et les non-dits. Donc oui, dans cette dimension-là, oui, la littérature a une part de politique nécessairement dans le simple fait qu'elle énonce et qu'elle énonce au-delà de effectivement de ce que le langage commun peut nous autorise à énoncer en fait tout simplement.
Dans votre livre, Kauter Adimi, la poétique est partout, notamment à travers la figure de la peintre Baya qui choisit d'arrêter de peindre pendant la guerre d'Algérie afin de refuser d'être instrumentalisée par la propagande coloniale.
Oui, parce que Baya est une peintre née en 1931 et qui va exposer dans l'une des plus grandes galeries parisiennes, la galerie Macht, qui existe toujours d'ailleurs avec sa fondation, et qui sera pour certains en tout cas l'exemple de l'arabité heureuse ou de l'Algérie heureuse, ce qu'elle n'était pas du tout. En vérité, Baya est une exception absolue. On rappellera que les Algériens avant 1947 n'avaient pas le droit de faire des études d'art et que l'histoire de Baya en tant que femme musulmane artiste est une exception totale. On ne connaît pas d'autres à cette époque-là, en tout cas pendant l'époque coloniale, pendant la colonisation en Algérie. Et donc, elle n'est pas le symbole d'une Algérie heureuse, elle est le symbole d'une rencontre inespérée avec Marguerite Camina, qui est celle qui va la pousser à peindre et la pousser surtout à montrer ses œuvres et qui va être le chaînon manquant avec un galeriste. Et donc, elle refuse, son mari musicien lui arrête de se produire, et elle arrête de peindre. À la fois, elle commence à avoir des enfants, mais aussi parce que la peinture manque pendant la guerre d'Algérie et parce qu'elle ne veut plus que ce milieu français puisse continuer à l'utiliser et à utiliser son histoire de cette façon-là.
C'est courageux d'arrêter son art.
C'est courageux, d'autant qu'elle ne savait pas combien de temps la guerre d'Algérie allait durer. Et puis elle ne savait pas s'il y aurait une indépendance. Donc c'est évidemment extrêmement courageux. Mais je pense que la cause de l'indépendance dépassait, transcendait absolument tout. Mais vous disiez, la culture, la littérature est politique. Je dirais que la culture même est politique. La guerre d'Algérie, elle passe aussi par la culture. Par le sport. On rappelle l'équipe de foot algérienne qui se constitue à la demande du FLN. On rappelle aussi qu'il y a plein d'artistes hein, qui prennent politiquement, en tout cas des écrivains qui prennent politiquement position pour l'indépendance. Cette fameuse phrase de Kateb Yassine qui dit « La langue française est mon butin de guerre », c'est une déclaration hautement politique, une revendication très forte de l'écrivain qu'il est et de l'usage de cette langue-là.
On continue cette conversation passionnante. Dans un instant, on entrera dans vos ateliers d'écriture.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. guêpes et les nids des oiseaux. On allait bien à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se
C'est Nino Ferrer, La Maison près de la Fontaine, et nous sommes toujours en compagnie de Kaouter Hadimi, Rachid Benzine et Julien Delmer. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Rachid Benzine, vous utilisez le tutoiement. Pourquoi ce tutoiement ? Est-ce que c'est aussi une adresse au lecteur ?
Absolument, c'est-à-dire que faire face à la déshumanisation puis au manque d'empathie ? Donc le meilleur moyen, c'est d'interpeller, je dirais, la conscience du lecteur. Donc, et ensuite, ce tu va se transformer en jeu, puisque à partir du moment où il y a la rencontre avec Nabil El Jaber...
Après, c'est un monologue et il raconte.
C'est un monologue, et donc Julien devient le dépositaire de la mémoire palestinienne, comme le lecteur devient le dépositaire de la mémoire. Et je crois que fondamentalement, pour faire récit commun, il faut mettre en commun nos récits, il faut qu'une partie de ma mémoire devienne la vôtre. Et il n'y a que comme ça qu'il y a une possibilité, me semble-t-il, d'envisager quelque chose qui releverait d'une justice et d'une paix. Mais tant qu'il n'y a pas globalement un échange de mémoire et d'histoire, chacun risque de rester dans son récit exclusif.
Je vais vous poser une petite question d'actualité quand même, je ne peux pas ne pas vous la poser. Avec la libération des otages, des prisonniers, est-ce que vous pensez qu'une paix est possible aujourd'hui ?
Ben, je crois qu'il y a à la fois une libération des otages du côté israélien, mais il y a aussi des otages du côté palestinien. Donc, pour ne pas les réduire uniquement à l'idée de prisonnier. Donc, la sémantique est très importante. Je crois qu'il y a un cessez-le-feu qui est déjà remis en cause. Et lorsqu'on a envie de ne plus voir l'autre exister, ça devient problématique. Et Simone Veil, la philosophe, disait qu'il faut, je dirais, armer les plus faibles, car le fort a tendance à devenir barbare. Lorsqu'on a toute la force et la puissance, on a tendance à déshumaniser l'autre. Et donc comment, on protège les plus faibles ? On les protège par la question du droit, on les protège par des questions de rapport de force, on les protège pour faire en sorte que leur récit ne soit pas invisibilisé, qu'il puisse aussi exister dans nos médias comme nous le faisons aujourd'hui.
Et ce tutoiement, il se matérialiserait comment entre Israéliens et Palestiniens, par exemple ?
Je pense qu'à cette idée de la mémoire, et de toute façon, nous avons deux sociétés qui se sont effondrées. Donc on a l'effondrement de la société palestinienne, mais on a aussi l'effondrement de la société israélienne qui, lorsqu'elle va passer le cap du déni, va commencer une autre guerre intestine qui peut aller jusqu'à la guerre civile. Et je crois que tant qu'on n'est pas capable de voir cela en face, c'est la question de l'humanisation, vraiment des deux côtés. Et Nabil El-Jaber, il le dit, il dit pendant très longtemps, les Israéliens n'ont eu des images des Palestiniens que comme des terroristes, et les Palestiniens n'auront eu d'images des Israéliens que comme des colons. Et donc, c'est cette double image qui
va aujourd'hui, falloir... ils se rencontreront de moins en moins.
En tout cas, ils se rencontreront peut-être de moins en moins, mais ici, nous ne devons pas faire l'erreur que nous faisons actuellement. C'est-à-dire que nous sommes dans un espace de paix et nous faisons que confirmer, conforter ces exclusions réciproques. Et je crois que dans la société française, il y a la possibilité que tous les récits puissent exister. J'ai l'impression que ce qui se passe en France est en écho par rapport à l'exclusion de l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'a même plus le droit d'exister, il n'a même plus le droit à la parole. D'où la question de la culture, de la mémoire de Mahmoud Darwish, de tous ses livres qui disent « Nous avons été là, nous sommes là et nous serons encore là ». C'est-à-dire que tant qu'il y a encore une possibilité de résister par la mémoire, l'histoire et la lecture, le peuple palestinien continuera, qu'on le veuille ou non.
Julien Delmer, alors vous, quel a été le point de départ de votre livre ?
Le point de départ, moi, ça a été la découverte, presque une révélation, de la musique de Tons van Zandt, que je ne connaissais absolument pas. Tons van Zandt, c'est un chanteur de country de la fin des années 60, début des années 70, très peu connu, trop peu connu par rapport à son talent. Il a un talent immense, beaucoup l'ont comparé à Dylan, à Cohen, mais il n'a pas du tout eu le même succès parce que il était en proie à des addictions qui lui ont fait gâcher toute une partie de sa carrière. Il est mort jeune, il a laissé 4 ou 5 albums qui, pour le peu de gens qui le connaissent, sont des albums cultes. Et moi, je l'ai découvert il y a 3 ans et j'ai été littéralement happé par sa musique. J'avais aucune idée préconçue de ce que j'allais écrire. D'ailleurs, j'avais un roman que j'avais l'intention d'écrire et que j'ai laissé de côté parce que ce texte s'est imposé à moi au travers d'abord de sensations. C'est vraiment un retour à la sensation première, c'est-à-dire la musique fait naître des paysages, des atmosphères, des ambiances, puis des visages et enfin après des personnages qui sortent de la brume. Donc j'ai choisi d'accompagner au rythme de la musique ce processus sans vraiment savoir où j'allais. Et puis peu à peu, ce texte s'est sédimenté, consolidé. Et là, d'autres influences sont venues, notamment la relecture de ce texte biblique, le livre des Lamentations.
C'est ce que j'allais vous dire,
Jérémie,
le titre, la joie de l'ennemi.
Voilà, d'où est extrait effectivement le titre, la joie de l'ennemi, et qui est une sorte de texte, une élégie majeure, un des grands textes poétiques de l'Ancien Testament, qui fait aussi écho à la musique de Tons van Zandt, qui est une musique, en fait, une tentative de reconstruire sur les ruines.
Qu'est-ce que ça veut dire, la joie de l'ennemi ? Dans les Lamentations, la phrase, c'est « Il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs. »
C'est une élégie, c'est-à-dire vraiment, c'est une grande lamentation vers le ciel. La fille de Sion, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une métaphore de Jérusalem et du peuple juif, et moi, dans mon roman, je donne une interprétation aussi, peut-être une métaphore de la condition féminine en général, a été rasée, réduite en cendres, et au milieu des ruines, le peuple juif survit. C'est parmi les scènes les plus dures décrites dans l'Ancien Testament. Il y a même des scènes de cannibalisme, les gens meurent littéralement de faim. Il y a toujours cet espoir, malgré tout, que l'Éternel va venir secourir son peuple, ne l'abandonnera pas complètement. Et là, la joie de l'ennemi dans le contexte biblique, c'est vraiment cette notion qui revient très souvent dans l'Ancien Testament, que si l'Éternel châtie, c'est que le peuple, quelque part, a failli. Moi, dans mon interprétation, l'ennemi intérieur qui rit dans le crâne de mon personnage principal, c'est celui qui entraîne sa chute perpétuelle, même quand il a envie de se relever, c'est-à-dire, en l'occurrence, ses addictions. Voilà.
Et est-ce que ce n'est pas aussi la possibilité d'une résilience ?
Alors ce mot résilient, je sais qu'on en a tous marre parce qu'il a été suremployé, surutilisé, mais et que le mot rédemption sent un peu l'encens peut-être, mais oui, en tout cas la possibilité de changer, d'évoluer, de se relever. En tout cas, moi c'est ce que je crois, c'est-à-dire peu importe si la chute revient, à chaque fois ce qui compte peut-être pour mon personnage et pour moi c'est de se relever, oui.
Qu'est-ce que ennemi, vous, la joie ennemie, c'est pas exactement le même sens, quoique ça peut se retrouver aussi.
Non, mais c'est pas si loin.
Qu'est-ce que ça change justement de mettre la joie aussi au cœur de votre récit?
Alors moi, le texte, je l'emprunte à Kateb Yassin qui dans le Polygone étoilé dit « Ni mort ni meurtrier, je dissimule nos pertes à la joie ennemie ». Et c'est une phrase que je trouve très forte, qui parle aussi de résilience, mais aussi d'une forme de pudeur, de courage, de face à l'ennemi, je ne tremblerai pas. Ou en tout cas, je ne tremblerai plus en ce qui me concerne. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps, puisque mon livre, c'est un livre sur les années 90, sur les territoires de l'enfance, sur comment tout ce qu'on a pu vivre dans le passé et dans l'enfance continue à exister avec nous. Et moi, l'image que j'en avais, c'était des pierres dans ma poche qui étaient très lourdes et qui m'alourdissaient. Et je ne savais pas très bien quoi faire de tout ça. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que le premier but des terroristes, ce n'était pas tant de tuer que de terroriser. Et ça, c'est quelque chose contre lequel j'essaye de complètement m'opposer, c'est-à-dire et c'est quelque chose que j'ai revécu avec les attentats à Paris, qui m'a totalement déstabilisée, parce que c'est tout ce que je ne veux plus, c'est-à-dire et c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de la joie ennemie, c'est que la joie doit être là, avant toute chose, et face à ceux qui nous veulent du mal, là en l'occurrence c'était les groupes islamiques, il ne faut pas trembler et il faut tenir debout.
D'ailleurs, en parlant de Kateb Yassin, c'est aussi une histoire familiale chez vous, Kaouter Hadimi, puisque c'est un auteur fétiche pour votre père.
C'est un auteur. Oui, j'ai pris avec moi à Paris les livres que mon père avait achetés dans les années 70 de Kateb Yassin. Et d'ailleurs, si j'envoie mes livres au seuil, mes manuscrits au seuil, c'est parce que Kateb Yassin a été publié dans la collection Cadre Rouge du Seuil. Et c'est quelque chose qui... Le Cadre Rouge a joué un rôle extraordinaire dans la littérature algérienne. C'était pour moi vraiment quelque chose de très émouvant de publier dans cette collection-là.
Vous écrivez « L'écrivain est toujours un peu misérable lorsqu'il force les confidences de ses proches, lorsqu'il insiste et espère une vérité qu'on ne veut peut-être pas lui donner. » Comment vous faites, vous?
Moi, j'ai forcé les confidences. Non, pour ce livre, j'ai forcé... Parce que je ne me souvenais pas de grand-chose des années 90, donc je suis beaucoup allée enquêter auprès de ma famille, de mes frères, de mes parents, de nos propres archives, des films... réalisé par mon père, de mes carnets. Je tenais beaucoup de carnets, même enfant, j'avais des carnets avec beaucoup d'articles de presse, de petits mots, etc.
Mais pourquoi c'est misérable, ça?
Parce qu'en fait, à la fin de la fin, il y a un enjeu personnel. C'est moi d'écrire un livre. Donc, ce n'est pas... Est-ce que c'est si...
Mais même si vous, non, mais... si vous n'écriviez pas de livre, le fait de...
Eh bien, ce serait moins misérable. Ce serait moins misérable. Mais non, parce que dès lors que vous êtes dans un agenda personnel d'écriture d'un livre, c'est complètement intéressé. Ça n'a rien de désintéressé. Et donc, je force des confidences, parce que peut-être que mon père n'avait pas envie d'avoir cette discussion-là à ce moment-là. Mais je la force, parce que moi, c'est le moment de l'écriture.
Parce que vous y voyez un intérêt général aussi.
Je pense que tout écrivain, il voit d'abord un intérêt personnel. Je vois mes camarades au chef de la tête.
Donc, c'était quoi, si c'est un intérêt personnel?
C'était le bon moment pour moi.
Oui, c'était un moment.
Voilà. C'était le bon moment pour moi. C'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup retardé. Hein.
C'est honnête de le dire.
C'est vrai. D'abord, c'est un livre que c'est une commande que j'ai acceptée en 2017. On est en 2025. C'est un livre que j'ai mis du temps à écrire parce que ce n'était pas le bon moment pour moi et que je n'avais pas du tout envie d'ouvrir ces cartons du passé. Et ensuite, je n'avais pas initialement prévu de raconter l'histoire de ma famille. J'avais prévu de raconter l'histoire de Baya, de me cacher derrière Baya. Et au fur et à mesure de l'écriture, en fait, les années 90 sont revenues parce que j'ai découvert Baya à la fin des années 90.
Est-ce qu'on n'est pas toujours poussé par un moteur personnel, Rachid Benzine, quand on écrit?
En tout cas, moi, je suis poussé par un moteur qui relève des silences, des non-dits, et que certains récits n'existent pas. Donc il y a...
Même quand vous parlez du libraire de Gaza, vous racontez votre passion des livres aussi à travers.
Oui, à travers, mais ce n'est pas cela le plus important. C'est-à-dire que je pourrais raconter cela avec un audio ou avec mes potes qui me connaissent évidemment. Mais pour moi, il y avait une urgence dans la mesure où il y a quelque chose qui relève d'une justice, mais pas au sens d'oppression. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vous savez, la question de la justice, on y entre souvent par le sentiment d'injustice. Justice. En philosophie politique, on a du mal à définir ce que c'est que la justice, mais on sait ce que c'est que l'injustice. Et donc, il y avait, me semble-t-il, une injustice de ce côté-là qui demandait à être réparée par, je dirais, ce récit.
Et c'est quoi le sentiment? C'est une colère?
Oui, en tout cas, c'est effectivement la colère face à l'injustice, c'est l'incompréhension et plein de, je dirais, de partenaires qui étaient avec nous au départ, dès qu'il s'agit de parler de la Palestine, ils sont plus là. Et donc, il y a quelque chose d'une inhumanité qui s'exprime et vous vous retrouvez seul au front, alors que pendant des années, vous avez été avec des gens qui vous disaient, allez, on y va.
Et donc, vous y êtes allé.
Oui, j'y suis allé, mais parce que la question de la justice n'est pas simplement une question de droit. La question de la justice, c'est une question d'une dette à honorer envers les autres qui vous font vivre, envers les autres qui vous donnent envie de vous lever chaque matin. Et quand je vois le combat palestinien depuis 1948, cette capacité de résilience, cette capacité à se relever, il y a quelque chose qui vient dire, c'est pas simplement de la résilience, c'est le refus de l'effacement d'une population, d'un peuple.
Kawtar Hadimi, vous avez été lu par notre libraire québécois Mike Viennot de la librairie Mediapol à Montréal. Bonjour Mike.
Bonjour.
Alors je dois dire que vous êtes tellement enthousiaste à l'égard de ce texte que vous aviez préparé 10 minutes de chronique que j'ai dû couper.
Oui, mais j'avais tellement de choses à dire. Bonjour, Kawtar Hadimi. Allô, il y a beaucoup de clarté qui glisse dans les interstices de votre récit, parfois sombre. J'aimais vous lire, mais là, j'adore vraiment vous percevoir. Il y a dans votre écriture un long souffle mélancolique du passé, mais avec de longues traînées de lumière. Je comprends pourquoi le travail de la peintre Baïa vous attire, vous remue. Vous y retrouvez et votre écriture et votre posture, cette effervescence de couleurs dans un cadre retenu. On sent parfois la toile qui fendille, le canevas lentement craquelé, comme les regrets d'un passé mal assumé ou les remords d'un présent maladroitement vécu. La rigidité de votre père, la fragilité de votre mère, la particularité de votre frère, votre famille était déjà un tableau vivant qui traverse la toile de votre écriture. J'ai aimé découvrir, pourtant dans la frayeur et l'anticipation inquiétante, votre périple entre espoir et déception, entre attente et consolation. J'ai aimé, non, en fait, j'ai adoré votre retenue tout autant que je me suis sentie émue par vos élans.
Voilà, je ne vous ai pas menti, Kawtar Hadimi.
Merci, je suis touchée.
Mike Viennot, le fait que Kawtar Hadimi passe par la peinture, c'est aussi ce qui a retenu votre attention.
Dans tout ce récit, Kawtar Hadimi, vous nous ramenez à quelque chose d'essentiel, ce qui pourrait être utile et nécessaire, le recours à l'art pour calmer nos troubles intérieurs. Votre livre évoque notamment cette peinture de Baïa nommée « Les jardins de la Méditerranée » où l'on voit deux femmes se faire face. Moi, j'y vois une Kawtar Hadimi doublée, divisée entre le passé et le présent, mais toujours dans un flou de multiples couleurs vivantes, comme le souvenir, même douloureux, même difficile. Est-ce que je me trompe?
Alors, vous ne vous trompez pas, et c'est exactement pour ça que sur la couverture, vous avez deux points au milieu de la constellation. C'était cette dualité que je voulais illustrer. C'est dire à quel point vous ne vous trompez pas du tout.
Je suis ravi.
Merci beaucoup.
Merci Mike. Cette dualité, elle est très commune. J'ai l'impression que tous les Algériens sont dans cette dualité, non?
Vous voulez dire qu'on est deux dans nos têtes et qu'on n'est pas d'accord? C'est probable. Non, mais en fait, l'Algérie, c'est un pays qui a traversé beaucoup de guerres et beaucoup de crises politiques. Mais c'est un pays avec une grande jeunesse et c'est un pays avec une grande capacité à se relever. Et je pense que ça crée aussi des individus avec énormément de ressources, mais aussi énormément de fragilité et puis des émotions très intenses et très fortes.
Parce que c'est un passé violent.
Je ne veux pas faire de généralité, mais le fait est que, moi, si je prends juste sur ma famille, mes grands-parents ont vécu 3 guerres, mon père a vécu 2 guerres et j'en ai vécu une. On peut regarder le verre à moitié plein et se dire que ça descend en termes de nombre. Et on peut prendre le verre à moitié vide et se dire qu'à nous trois, on est porteurs de beaucoup de tristesse, de beaucoup de violence et en même temps d'une immense joie. Et c'était aussi ça le titre de mon livre. Et c'est aussi pour ça que Baïa m'a beaucoup émue, parce que Baïa, c'était la lumière retrouvée à la fin de la guerre.
Merci beaucoup Kawtar Hadimi, Rachid Benzine, Julien Delmer. On se retrouve tout de suite pour parler plus en détail de votre livre, Julien Delmer, La joie de l'ennemi. Mais d'abord, on écoute le titre UFO de Forever Pavot et Lee Spector.
Boule de feu de crise.
Écoutez, au livre, etc. C'est maintenant l'heure du conseil lecture de la semaine.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Et mon conseil lecture, c'est donc votre livre, Julien Delmer, La joie de l'ennemi, publié chez Grasset. On en a déjà un peu parlé, mais j'aimerais qu'on entende votre langue, car c'est un roman très poétique malgré sa violence. Il y a notamment de magnifiques pages sur l'amour. Je vous propose de nous en lire un extrait, si vous le voulez bien.
N'appelez pas amour ce que vous parvenez à épeler, à circonscrire d'un trait. Cet amour prémédité, mâché, cent fois et rabâché, ne l'appelez pas. Convoquez plutôt les sentiments féroces, les jungles d'insomnie et les lèvres fraîches, et la laine boisée, et le suc, et la sève. Tout cela, l'amour le contient et le déborde. Nous l'ignorons, mais eux le savent. Ceux qui sèment, ensemencent et récoltent. Les amants balayés à l'aube sur les trottoirs, parmi les mégots tachés de lipstick, les courants d'air et les refrains sucrés. Ils sèment et se multiplient.
Merci, c'est magnifique. On dirait presque un texte religieux.
Il y a certainement, oui, une influence d'une certaine liturgie, d'une écriture, d'une litanie en tout cas, parce que effectivement, j'ai beaucoup relu la Bible en l'écrivant, je la lis régulièrement. Sans doute que les poètes que j'aime ont aussi cette influence, en fait. On se rend compte qu'en Occident, pratiquement tous les écrivains, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en sont conscients ou non, on écrit en présence de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, parce que Shakespeare s'en inspirait, forcément, Victor Hugo s'en inspirait, donc forcément, les Américains, alors j'allais dire c'est pire, c'est mieux, ça dépend du point de vue dans lequel on se situe, mais voilà, je veux dire que ce soit Cormac McCarthy, Faulkner,
ce que j'allais dire, c'est vraiment cette langue-là.
La langue biblique est omniprésente. omniprésente, chez Toni Morrison aussi. La moitié des romans de Toni Morrison commencent par un incipit extrait de la Bible. Enfin, voilà, donc en fait, on est imprégné, qu'on le veuille ou non. Ce serait intéressant pour moi de savoir, mais je pense que oui, peut-être que quand on sort justement de l'Occident, peut-être que est-ce que le Coran, est-ce qu'on écrit aussi, les auteurs contemporains écrivent aussi sans le savoir en présence du Coran, parce qu'elle a imprégné la plupart des auteurs classiques.
C'est une autre histoire, mais...
En tout cas, la poésie arabe.
La poésie arabe, elle est importante. Puis la question de la rythmique, dans le Coran, la psalmodie, la musicalité, c'est un élément très important en termes d'écriture.
N'appelez pas amour ce que vous parvenez à épeler. Quel rapport votre héros, Geoffrey, cet homme que vous qualifiez de vagabond mental, entretient-il avec l'amour ?
Un rapport, j'allais dire, fantomatique. Il a aimé, il en est persuadé, une femme solaire qui s'appelait Kathleen, et cette femme l'a quitté tout simplement parce qu'elle n'était plus capable de le suivre dans les méandres de ses rechutes, de ses reniements, de la drogue et de sa violence potentielle. Mais il en garde une sorte de brûlure, comme une sorte de douloureuse nostalgie, et en même temps, il passe par tous les états du deuil amoureux, c'est-à-dire d'abord le déni, et puis peu à peu un sentiment de culpabilité. Il se demande s'il n'aurait pas pu, à un moment ou un autre, la retenir. Et puis ce moment où il lâche littéralement la rampe du réel, où il se demande si finalement il ne l'aurait pas tué pour l'empêcher de partir. Et là, il se met à s'accuser d'un crime qu'il n'est pas sûr d'avoir commis. Et le roman prend presque une sorte de teinte policière, puisqu'il se met, le personnage se met à essayer de reconstituer des indices qui pourraient lui indiquer si oui ou non il est un meurtrier, et qui plus est le meurtrier de son amour. Le prénom Kathleen n'est pas choisi au hasard, parce que c'est d'abord une des chansons de Tans van Zandt, donc le musicien qui m'a inspiré. Et puis dans l'argot des toxicomanes américains, Kathleen, ça désigne aussi l'héroïne, en fait, la drogue. Donc il a un rapport assez toxique finalement à l'amour aussi, mon personnage principal.
C'est presque la lady héroïne de Gainsbourg.
Exactement.
Vous écrivez à un moment, l'amour est un fait divers, pas une épopée. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Souvent, dans la littérature, on a effectivement souvent traité l'amour de manière peut-être très, comment dire, en y déployant peut-être sur un piédestal et en lâchant les grandes orques, si vous voulez. Or, parfois, j'ai l'impression que l'amour est aussi intéressant quand il se loge dans des détails, des gestes, des non-dits, des amours de rien, des brindilles d'amour plutôt que des grands feux de romantique, en fait, c'est ce que je voulais exprimer.
Avant de terminer, j'aimerais qu'on dise un mot assez court de Leonard Cohen, Julien Delmer. Votre héros, Geoffrey, se sent en rivalité avec lui, car Kathleen l'adorait. Un jour, il l'écoute et vous écrivez. Les critiques qu'il adressait jadis à Cohen pour ses paraboles foireuses, son mysticisme de contrebande, le dictionnaire qu'il fallait sortir pour comprendre la plupart de ses paroles, tout cela fut balayé. Il sentit la main de Dieu sur sa nuque, lui montrer la glèbe d'où il avait été modelé, les caresses enfouies, les amours de passage, les mèches de cheveux qu'on retrouve au matin dans le poing crispé d'un Maccabée, les chiens qui jappent dans le sillage du fuyard, la mitiette du Shabbat, l'herbe amère du pardon. D'où ma dernière question, comment ne pas être jaloux de Leonard Cohen ?
Je me mets à la place de mon personnage. C'est quelqu'un d'assez rustique, d'assez mal dégrossi. C'est vraiment le côté plutôt country, cowboy de la musique qui lui plaît. Et Cohen est un intello du Nord pour lui. Et effectivement, toutes ces métaphores ne lui parlent pas. Mais il est obligé, quand il est pris justement par la voix et la résonance quasi liturgique aussi de la voix de Cohen, il est pris d'une émotion qui le dépasse. Moi, je pense que c'est ça aussi parfois où la musique est capable de nous mener, c'est nous amener à aimer des choses qu'on se sentait pas forcément a priori destiné à aimer, en fait. Et je pense que c'est aussi la découverte d'une certaine fragilité chez mon héros. Et c'est un moment où peut-être c'était moi mon idée que j'avais en tête très vague, c'était un cow-boy qui pleure, et c'est le moment où mon héros pleure, en fait, pour la première fois.
Voilà, boucle et bouclée, on revient au début avec cette question du lien et de la culture qui permet justement de dépasser ces a priori. Merci Julien Delmer, merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission, placée sous le signe de la résilience, ce mot qu'on adore. Je vous invite à découvrir le roman de Rachid Benzine, L'homme qui lisait des livres, paru chez Julliard, un texte lumineux sur le pouvoir des mots face à la guerre et sur la fraternité que fait naître la lecture, même au cœur des ruines. Lisez aussi le récit de Kauter Adimi, publié dans la collection Ma nuit au musée chez Stock. Ça s'appelle La joie ennemie. Et c'est un livre important aussi en ce qu'il montre combien l'art et la culture sont une nécessité vitale. Récit à ne pas confondre avec le roman de Julien Delmer intitulé La joie de l'ennemi et publié chez Grasset. Littérairement, c'est juste magnifique. On a entendu quelques extraits. J'aimerais remercier aussi nos libraires du jour, Catherine Manger et Meg Viennot, ainsi que nos partenaires, la RTS, la RTBF et Radio-Canada. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Rémi Sistiaga à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.